Nous allons maintenant lire quelques textes. Le premier est dans Exode, au chapitre 23. Donc, après avoir renouvelé l'alliance avec Israël au Sinaï, l'Éternel adresse au peuple ses recommandations. Tu me fêteras chaque année par trois pèlerinages. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai ordonné, au temps fixé du mois des épis, car c'est alors que tu es sorti d'Égypte. Et on ne viendra pas me voir en ayant les mains vides. Tu observeras la fête de la moisson, des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, ainsi que la fête de la récolte au sortir de l'année, quand tu récolteras des champs les fruits de ton travail. Trois fois par an, tous tes hommes viendront voir la face du Maître, le Seigneur. Les deux textes suivants sont un enseignement de Jésus à ses disciples dans l'évangile rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et 16. Lorsque viendra l'Esprit que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et un peu plus loin. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, l'Esprit consolateur ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai.
Et ensuite, c'est dans le chapitre des Actes, numéro 2, c'est quand les apôtres, ils viennent de désigner Matthias pour compléter le cercle des apôtres après la mort de Judas. Donc, acte 2, versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur parut comme des langues de feu qui se partageaient. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, à Jérusalem, résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la... Excusez-moi, j'ai toujours de la peine avec ce mot. Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye... Cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tout en juifs que présolites, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire ? D'autres s'esclaffaient et disaient, ils sont pleins de vin doux.
Alors le récit que nous venons d'entendre, du début des actes, est appelé parfois première Pentecôte, mais à tort. Et il peut laisser penser, d'une manière un peu banalisée, que c'est simplement le baptême de l'Esprit que les disciples et leurs amis ont reçu à Jérusalem lorsqu'ils étaient réunis ensemble. Or, vous l'avez entendu, ce récit est introduit par cette phrase. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient tous réunis ensemble. C'est dire que la Pentecôte était déjà un rendez-vous de la vie religieuse juive avant le temps des Actes. Alors, pour mieux comprendre ce contexte, il m'a paru utile de rappeler un peu ce que sont les fêtes juives. Les fêtes juives datent d'époques très anciennes et avaient à l'origine un caractère essentiellement agricole. Tout naturellement en relation avec le cycle de la nature. Leur caractère était autant profane que religieux. Et avec le temps, leur raison d'être va évoluer. En effet, ces fêtes vont être utilisées pour marquer les principaux événements de la vie du peuple d'Israël. Il fallait que le peuple d'Israël prenne conscience de la présence de l'Éternel en son sein. Et cette évolution donnera donc à ces fêtes un caractère religieux plus marqué et correspondra aux événements historiques vécus par le peuple. Et au gré des circonstances, ces fêtes changeront même de nom. À l'époque du Lévitique, ces rendez-vous entre l'Éternel et son peuple étaient au nombre de 7, hormis le sabbat. Elles détaillent leur organisation et décrivent, vous le trouverez, si vous voulez le connaître, dans les livres du Lévitique et du Deutéronome. Plus tard, l'année liturgique israélite s'est construite sur 3 de ces fêtes. Les 3 principales, propres à marquer les étapes décisives de l'histoire du peuple d'Israël. Et la première, c'est la Pâque, bien sûr, qui était à l'origine la fête du printemps qui marquait le début de la moisson. Et cette fête est devenue d'abord la fête des pains sans levain, ou des azimes, et puis même, à un moment donné, elle a été appelée la fête des premiers-nés épargnés par l'ange exterminateur. Alors vous voyez, c'était bien lié aux événements vécus par le peuple d'Israël. Puis plus tard, après l'Exode, elle a été nommée la fête du souvenir de la sortie d'Égypte. La deuxième de ces fêtes, eh bien, c'est la Pentecôte. Et c'est la fête de la fin de la moisson. Après le début, il y a la fin de la moisson. La fête qui deviendra la fête dite des semaines. Et pourquoi des semaines? Parce qu'elle correspond à 50 jours après la Pâque. 50 jours, c'est 7 semaines. Et elle a été associée là, au don de la loi. Puisque le peuple, après l'Exode, pendant ces 7 semaines, a voyagé jusqu'au mont Sinaï. Et c'est là que Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, la loi à Moïse, et il a renouvelé son alliance au peuple, avec le peuple. Alors, cette fête s'appellera finalement la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? C'est un mot grec qui veut dire 50. Et simplement, ce mot grec 50, Pentecôte, a été utilisé la première fois dans la traduction de la Septante. Mais la traduction de la Septante, ça a commencé en 250 environ avant Jésus-Christ, donc beaucoup plus tard que ces événements. Enfin, la troisième fête, c'est la fête de la récolte. On pourrait dire chez nous la fête des vendanges, pour être un peu vaudois ou genevois. Cette fête deviendra la fête des huttes ou des tabernacles ou des tentes, vous voyez, il y a le choix, c'est selon, en souvenir du séjour d'Israël au désert, où le peuple habitait sous des tentes. Et alors là, il faudra que le peuple se souvienne qu'il a habité sous des tentes. Notons que cette fête, cette troisième fête, est rarement mentionnée dans le Nouveau Testament. Pour Israël, l'importance de ces rendez-vous entre Dieu et son peuple est soulignée dans la loi. Le texte qui vient d'être lu, le premier texte qui a été lu tout à l'heure, « Tu observeras la fête des pains sans levain, tu observeras la fête de la moisson ainsi que la fête de la récolte. 3 fois par an, tous les hommes viendront voir la face du Maître, le Seigneur. » Ce sont de véritables convocations que Dieu adresse à son peuple, 3 fois par an. Le but est de graver dans la mémoire des Israélites et dans la mémoire du peuple les étapes décisives de ses origines et de sa relation avec Dieu. Il faut qu'il se souvienne, que le peuple se souvienne d'où il vient, qu'il se souvienne comment l'Éternel a pris soin de lui et qu'il se souvienne quelle est sa vocation. Alors ces 3 fêtes prennent un peu le sens suivant, si vous voulez, la sortie d'Égypte. On le sait, c'est l'intervention de l'Éternel qui fait d'un peuple d'esclaves un peuple libre. Ce qui donne naissance au peuple d'Israël et qui confère à ce peuple une véritable identité, c'est la Pâque. Au Sinaï, 7 semaines plus tard, Israël doit se souvenir que Dieu a fait avec lui, et en dépit de ses infidélités, parce qu'on est là juste au moment où il y a eu l'histoire, la malheureuse histoire du veau d'or. Donc en dépit des infidélités d'Israël, Dieu fait avec lui alliance, une nouvelle alliance, et il lui donne la loi dictée à Moïse comme structure de la vie du peuple. C'est la Pentecôte. Enfin, le peuple doit se rappeler qu'il a été nomade dans le désert, vivant sous tente, et n'ayant pour tout temple qu'un tabernacle. Et il vit cela avant d'entrer dans le pays promis, et c'est la fête des tentes. Revenons maintenant à l'origine de la Pentecôte. Cette fête est fixée 50 jours, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, environ 7 semaines après la Pâque. Pourquoi 7 semaines ? Cette durée, comptée en semaines et avec le chiffre 7, rappelle tout naturellement l'ordre créationnel, à savoir les 7 jours de la création. Et par analogie, la période qui s'étend de la sortie d'Égypte jusqu'à sur le mont Sinaï est comparable à une nouvelle création qui conduira à une nouvelle alliance. C'est une période au terme de laquelle Dieu, l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël est en quelque sorte achevée. Achevée dans le sens que le peuple est libre. Il a en main la loi pour se conduire et il a une alliance nouvelle avec Dieu. On pourrait nommer cette période, si vous voulez, de la naissance d'Israël, sortie l'Exode, à un statut de peuple de Dieu, renouvellement de l'alliance avec Dieu. Qu'en est-il devenu de ces fêtes et de cette situation d'Israël? Eh bien, au début de l'ère chrétienne, on peut dire que l'analogie de la création met aussi en évidence le lien étroit qui unit les fêtes de Pâques et de Pentecôte. Il donne à la Pentecôte une importance particulière. Du reste, jusqu'au IVe siècle, après Jésus-Christ, la célébration de Pâques se prolongeait pendant les 7 semaines jusqu'à Pentecôte. Et comme s'il s'agissait, pendant toute cette durée, d'une seule fête. Cette fête, ce temps de fête, ce temps festif, était appelé temps pascal ou Pentecôte pascal. Ce temps pascal a été célébré très tôt dans l'Église, et bien avant qu'ait été établi le temps de carême, la période qui précède Pâques. Cette préséance du temps pascal par rapport au temps de carême relève du fait que l'Église, très tôt, a reconnu qu'il était primordial de célébrer ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, donc sa mort et sa résurrection, ce qui vient après Pâques et jusqu'à la Pentecôte, par rapport à ce qu'il nous appelle à accueillir, c'est-à-dire la grâce qui nous appelle à accueillir Pâques, c'est-à-dire le temps de carême, la préparation à Pâques. Et en fait, ce qui suit la période de Pâques jusqu'à Pentecôte est plus important. Mais à partir du IVe siècle, la situation change, je ne sais pas pour quelle raison. Disons, la piété chrétienne s'applique à honorer séparément et successivement la résurrection du Seigneur à Pâques, son ascension à la droite de Dieu lors de la fête de l'Ascension et l'envoi de l'Esprit sur les apôtres lors de la Pentecôte. Pour l'Église aujourd'hui, qu'en est-il de ce récit des Actes? Il ne manque pas d'être étonnant, hein, ce récit, et il a de quoi frapper nos imaginations. Pourtant, on peut s'interroger sur le sens et l'importance de ces événements aujourd'hui. En effet, dans notre approche du Nouveau Testament, nous avons les évangiles, et puis arrivé à la fin des évangiles, on pourrait penser que l'essentiel de la révélation du Christ est réalisé. Venu dans le monde comme sauveur, l'œuvre du Christ, son œuvre de réconciliation à la croix, est accomplie. Sa victoire sur la mort a été glorieusement manifestée à Pâques, et puis elle a été attestée par un grand nombre de témoins. Alors vient son retour à la droite de Dieu, qui manifeste l'autorité du Christ. Ce retour étant achevé, le Seigneur étant remonté vers son Père, alors que manque-t-il à tout cela? Et qu'est-ce que la Pentecôte peut bien encore ajouter à l'œuvre du Christ. Eh bien oui, c'est vrai, il manquait quelque chose à l'œuvre du Christ. Si curieux que cela puisse paraître de s'exprimer de cette manière, il manquait quelque chose. Quelque chose qui n'est ni un détail, ni une virgule dans le steak, ni un point sur un i. Il manquait un élément dont Jésus lui-même avait souligné l'immense importance et dont il avait averti ses disciples. Lorsque viendra le Saint-Esprit, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille, ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Si je ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Alors le paraclet, dans certaines traductions, un mot un peu bizarre, ou l'avocat, ou le consolateur, ou le défenseur, nous le savons, c'est l'Esprit Saint. Et c'est lui qui, dès lors, prendra soin des disciples. Alors la Pentecôte est donc d'abord l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Et puis on sait aussi que les prophètes ont annoncé aussi ces événements et ces promesses de la part de Dieu. Mais en quoi cet événement a-t-il une importance si considérable? Serait-ce simplement un moyen d'aider les disciples à faire le deuil de leur maître? Non, cet événement a une importance considérable parce qu'il est la naissance de l'Église. Juste là, il y avait eu le peuple de Dieu, selon l'Ancien Testament. Mais le mystère de la création de l'Église, nous le devons à ce miracle de l'effusion du Saint-Esprit. Un événement radicalement nouveau par rapport à tout ce qui avait existé auparavant. Un événement que Dieu seul pouvait produire et qui restera absolument unique. Un événement qui porte en lui la garantie que personne ne pourra jamais détruire cette Église. Alors, la première Église, 120 personnes, comme on l'a entendu. En fait, 120 personnes qui sont rassemblées le jour de la Pentecôte, en elles-mêmes, ne sont pas encore l'Église. Pour devenir l'Église, il fallait que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agissant comme un lien invisible, comme un ciment entre elles, c'est là la caractéristique essentielle de l'Église. Comment cette intervention du Saint-Esprit est-elle donc survenue? Ici, toute explication va se heurter à la difficulté de décrire l'indescriptible. Un événement que personne n'attendait, parce que personne ne pouvait l'imaginer, et qui s'est produit avec la rapidité de l'éclair, le bruit d'un violent coup de vent, l'apparition de langues de feu qui se posent sur chacun des participants, et l'irruption du Saint-Esprit permettant de parler en toutes sortes de langues du jamais vu. Alors, j'aimerais m'arrêter quand même à quelques aspects de ce récit maintenant, à quatre aspects. D'abord, le bruit du coup de vent qui fait penser, bien sûr, au prophète Élie. On se souvient que lors de sa rencontre, si on peut appeler ça encore une rencontre, lors de sa rencontre avec Dieu à l'entrée de sa caverne, Élie a entendu passer Dieu près de lui comme un bruissement doux et subtil. Mais la présence de Dieu avait été précédée d'un vent violent qui a secoué toute la montagne. Cela fait penser aussi à Nicodème, à qui Jésus explique « Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Ainsi, le vent est signe de la liberté du Saint-Esprit. Enfin, cela fait penser aussi à l'Ecclésiaste, qui, pour décrire une mission impossible, parle de poursuite du vent. Impossible de mettre la main sur le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit n'est peut-être qu'une grâce que Dieu nous accorde dans sa souveraine liberté. Nous ne devons jamais oublier cet élément fondamental de notre relation à Dieu. Deuxième élément que j'aimerais rappeler, c'est que se demander ce qu'il faut penser de ces langues de feu. Je pense que ça paraît un peu bizarre. Eh bien, après s'être révélé par l'intermédiaire de Louis, c'est à la vue que l'Esprit se donne à connaître. Cela fait penser à Moïse qui rencontra Dieu dans un buisson de feu, mais qui ne se consumait pas. Cela fait penser à Élie, encore lui, qui demanda le feu du ciel pour confondre les 400 prophètes de Baal au mont Carmel. Le Saint-Esprit est un feu qui brûle et éclaire, mais un feu qui ne consume pas. Ça fait pas toujours penser à Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui ôter ses chaussures. Lui, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Enfin, Jésus lui-même avait dit être venu pour cette mission. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà arrivé. Eh bien, depuis la Pentecôte, ce feu est là, ce feu est allumé et il brûle sur la terre. Un feu qui ne cesse de brûler, mais sans jamais consumer. Et lors de la Pentecôte, les participants voient des langues de feu séparées les unes des autres. C'est donc un baptême individuel, mais collectif tout à la fois. Lors de la Pentecôte, le premier jour de l'Église s'est levé. Troisièmement, on peut se demander ce que l'Église va faire de tout cela. Cette nouvelle Église, cet embryon d'Église, que va-t-il faire de tout cela? Eh bien, à notre étonnement peut-être, ils se mirent à parler d'autres langues. Ne dit-on pas souvent que les chrétiens devraient précisément parler moins et agir plus? Souvenons-nous alors que la première action de Dieu au moment de la création fut de parler. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et dans ce premier chapitre de la Genèse, c'est une dizaine de fois que cette expression « Dieu dit » et la chose fut retentit avec une autorité impressionnante. La parole de Dieu est à l'origine de toute la création. Lors de la Pentecôte, c'est une invitation à parler que Dieu adresse aux premiers membres de son Église. Alors, parler, oui, mais pas pour dire n'importe quoi. Parler comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est cela qui constituera une parole d'autorité et en vertu de laquelle la chose sera. Une parole qui fait autorité et qui construit. Et en plus, une parole qui atteindra tout le monde, quelle que soit leur langue. Alors, qu'on me comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que la parole suffit et que l'action peut être laissée de côté. Au contraire, il s'agit de souligner l'importance de l'action, mais de rappeler que l'action est bonne lorsqu'elle est la conséquence de la parole de Dieu. Dieu dit et la chose est. Donc, cette parole de Dieu est suivie d'une action, et c'est cela qui est bon, c'est comme cela que Dieu crée et que sa création est bonne. Une action qui est engendrée par la parole de Dieu. Alors, il appartient à l'Église d'être modèle de ce mode de fonctionnement dans le monde. Deux mots encore, quatrième élément, au sujet des participants à cet événement de l'Ascension. Pardon, je retarde, de la Pentecôte. Deux mots au sujet des participants. Un groupe d'un côté, un groupe d'environ 120 personnes, dont les disciples. Et une foule de curieux accourut au bruit que produisit l'irruption de l'Esprit parmi les 120. Et tous les curieux entendirent le message dans leur langue. La fête de la Pentecôte attirait à Jérusalem beaucoup de monde, beaucoup de touristes, tous les juifs de la diaspora, de toutes les régions qui ont été mentionnées dans le texte. Et chacun de ces touristes remporta chez lui, à son retour, un enseignement de l'Évangile. Première campagne d'évangélisation de l'Église. La Pentecôte n'est donc pas seulement un événement historique ponctuel, comme Noël, la naissance de Jésus, comme Pâques, de révéler dans le monde entier les œuvres de Dieu. Alors je veux conclure en nous posant cette question. Que faisons-nous de la Pentecôte aujourd'hui? Est-ce, comme l'a indiqué tout à l'heure Michel, est-ce une fête? Est-ce une célébration ponctuelle? Est-ce un dimanche ordinaire, ou un dimanche spécial, ou un week-end prolongé? Eh bien, j'espère que le contenu de cette prédication nous permettra de nous souvenir que l'intrusion du Saint-Esprit est une nouvelle création, celle de l'Église formée de tous les baptisés, et au sein de laquelle Dieu promet d'être présent, avec laquelle il a fait alliance, et à laquelle il donne la loi nouvelle de sa grâce. Bien sûr, il ne s'agit pas de répéter la Pentecôte de la même manière qu'elle s'est produite au temps des Actes, que le Saint-Esprit doit survenir accompagné de vents bruyants, de feu, de parler en langue. Souvenons-nous, ça peut se produire aussi, mais enfin disons que ce n'est pas forcément comme cela que ça doit se répéter. Souvenons-nous que l'Esprit souffle où il veut, qu'il peut se manifester de toutes sortes de manières. Les exemples bibliques sont nombreux qui décrivent des interventions silencieuses du Saint-Esprit. Et il est certain que beaucoup d'entre vous pourraient témoigner d'actions de l'Esprit dans leur vécu, d'actions survenues de multiples façons. Et à chaque fois, on peut dire c'est, pour l'intéressé, une Pentecôte. Souvenons-nous aussi que dans cette création nouvelle, nous sommes appelés chacun individuellement, mais aussi tous, ensemble, collectivement, à dire l'Évangile comme l'Esprit nous donnera de nous exprimer et à opérer le miracle des miracles qui est la naissance de la foi. Alors que Dieu nous fasse la grâce de savoir accueillir l'Esprit, l'Esprit Saint, chaque fois qu'il nous accorde une Pentecôte, de ne pas craindre d'être déconcerté comme l'ont été les 120, mais de pouvoir encore en être émerveillé. Qu'il nous garde de dire, comme certains, qu'ils sont pleins de vin doux. Alors la Pentecôte, oui, c'est une fête, oui, c'est une célébration. Ça peut arriver un dimanche ordinaire, ça peut être un week-end prolongé. Oui, la Pentecôte, c'est tout cela. Et c'est une fête, c'est toujours une fête, et c'est une fête que nous allons fêter dans la liberté du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu. Chaque dimanche peut être une Pentecôte. Amen.